MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on parle de ralentir. Je le dis lentement, volontairement, parce que des fois, il faut prendre le temps que ça descende, ralentir, lever le pied pour son bien. Et oui, parfois, il faut ralentir pour son propre bien, là où tout va trop vite, dans une société où on court, et l'activisme est même encouragé, valorisé, élevé. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de tout l'inverse, de ralentir. Et je suis accompagnée de Nadine et notre invitée pour aujourd'hui, Catherine Delman. Bonjour, mesdames.
Hello, Evine. Hello.
Bienvenue Catherine.
Merci beaucoup.
Quel plaisir de t'accueillir.
Merci d'être ici.
Alors tu es une bibliste. J'aime beaucoup ce terme. J'avais envie de le placer. Je trouvais que c'était bien. Ça veut dire quoi une bibliste, Catherine ?
C'est par choix. C'est vraiment pas une théologienne. Moi, je ne suis pas dans la théologie. Je suis dans le texte biblique. Mmh. Moi, ce qui m'inspire, m'attire, et c'est le texte biblique.
Une passionnée des Écritures,
vraiment.
Vraiment. Et on peut en témoigner parce qu'on te connaît bien, Catherine. Mmh. Catherine, tu travailles avec nous maintenant depuis un petit peu plus d'un an. C'est ça, hein.
Exactement.
Ouais. Et dans l'équipe Ma Bible avec ma chère Nadine,
moi,
vous êtes
avec
collègues
moi,
toutes
oui.
les deux.
Oui, Catherine est ma collègue sur Ma Bible et c'est un vrai plaisir de travailler avec elle. Elle est tellement intelligente, tellement profonde. Je suis tellement contente que tu sois là, vraiment. Et elle a écrit un super livre, on va en parler tout à l'heure aussi.
Exact.
Et vraiment, c'est une inspiration, c'est une femme extraordinaire.
Je confirme. Catherine, c'est un petit peu mon dictionnaire biblique. J'ai une question, Catherine, mais je comprends pas trop ce passage-là. Où, c'est quoi le contexte ? Le contexte est très fort pour les contextes bibliques, contexte. Vraiment. L'aspect historique, en tout cas. Tu as notre petit dictionnaire biblique qu'on aime beaucoup. Donc, c'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau.
Merci.
Et aujourd'hui, bah, tu l'as dit, Nadine, on va parler de ton livre que tu as sorti tout dernièrement, tout frais, tout neuf, Oser ralentir. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Et en fait, cette thématique est basée sur ton livre. Et tu vas faire une rubrique conseil du coach tout à l'heure. Tu nous diras comment s'arrêter quand tout va trop vite. Et je sens qu'il y a des gens juste là. Ils soufflent juste en entendant ça.
Et il y en a qui soufflent pas parce qu'ils réalisent peut-être pas qu'ils vont trop vite. Donc ouais. On va aussi parler de comment réaliser d'abord qu'on va trop vite.
Eh, ça c'est super important. Ça c'est vrai qu'on a du mal à réaliser. Ou on réalise trop tard parfois.
Ouais, c'est clair.
On est brûlés. Et après c'est trop tard. Oh, j'ai hâte de t'entendre, Catherine, et on va commencer donc cette très très belle émission. Je vous encourage à vous installer confortablement. Mmh. C'est une émission dans laquelle il faut être posé. On n'est pas en train de courir là. On ralentit, on lève un petit peu le pied. Alors installez-vous confortablement et Nadine va t'écouter dans la pensée du jour.
C'est un sujet très 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 important et j'ai aimé ce que les filles ont dit. C'est que des fois, on réalise même pas qu'on est en train de courir, on réalise même pas qu'on a besoin de ralentir tellement c'est dans notre façon de faire, c'est un mode de vie. Et comme Livine a dit, des fois c'est même encouragé, c'est même valorisé, surtout même dans l'église, c'est ah ok, c'est pour le royaume, donc comme c'est pour le royaume, on y va à fond, oubliant qu'on a un corps qui est un véhicule, qu'on doit prendre soin et que le repos, c'est un rythme que Dieu a imposé au peuple, c'est un rythme que Dieu nous a donné, c'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la paresse, c'est vraiment même de la foi que de se reposer en Dieu et de respecter ce rythme-là. Et alors, avant de faire ma pensée, je lisais encore le livre de Catherine cette fin de semaine, ce week-end pour les gens qui ne sont pas au Québec, parce que je pense que c'est juste
cette
ici qu'on
semaine,
disait.
Oui, c'est vraiment québécois.
C'est vraiment québécois. Et je suis tombée sur un texte, pendant que je lisais, ça m'a tellement frappée, j'ai dit non, faudrait que je lise pendant ma pensée. Elle dit ici, les ordres de Dieu ne sont jamais une privation. Ces ordres sont une invitation à vivre selon ce que Dieu sait être bon. Dans le cadre du Shabbat, l'ordre du repos devient un garde-fou contre notre besoin de prouver, de produire, de mériter.
Oh.
Je l'avais dit que c'était profond. Et vraiment, juste à partir de là, je crois que chacun de nous peut se retrouver. Mmh. Certains sont en train de travailler parce que oui, ils veulent prouver, ils veulent montrer qu'ils sont capables de faire des grands exploits. Ils se sentent même valorisés par le travail qu'ils produisent. Mais lorsque Dieu a donné ce rythme de repos, ce n'était pas pour nous punir, en fait. Mmh. Mais c'était pour notre bien. Même dans la nature, même des cultivateurs, lorsqu'ils cultivent la terre, à un moment donné, ils savent que cette terre, elle va mieux produire si je la laisse se reposer pour pouvoir se régénérer. Et j'étais avec mes belles-sœurs pendant les vacances de Noël et on était assis autour de la table, on était en train de parler et on parlait de comment chacune de nous disait un petit peu c'est quoi son point de rupture, parce que des fois on se rend pas compte qu'on est déjà fatigué, allez, c'est devenu trop tard. Et il y en a une qui racontait une histoire comment ben sa fille lorsqu'elle rentre de la maison de l'école, elle va venir s'asseoir dans sa chambre, elle va lui parler spontanément de sa journée et elle écoute. Mais une fois, sa fille est rentrée et puis elle a fait la même chose. Et ça l'a énervée, elle s'est irritée, sort de ma chambre et tout. Et la fille a dit, oh maman, t'es bizarre aujourd'hui. Elle s'est rendue compte, ah tiens, quand je manque de patience comme ça, ça veut dire en fait que je suis fatiguée. Et je vais vous inviter aussi à reconnaître quels sont les signes en fait qui montrent que vous êtes déjà rendu presque au point de rupture. Est-ce que c'est de l'irritabilité? Est-ce que peut-être c'est un manque de sommeil? C'est peut-être un manque d'appétit ou une rage de sucre? Je ne sais pas quoi, mais vraiment prenez le temps de reconnaître, votre corps est en train de vous parler beaucoup plus que vous ne le pensez, et prenez le temps de reconnaître ça pour décider de ralentir, ou même, je dirais même mieux, pour oser ralentir.
Oh,
j'ai placé celle-là.
Jolie. Très, très intéressant ce que tu partages, Nadine. Et j'avais noté pratiquement mot pour mot ce que tu disais par rapport au fait que l'activisme est très spirituel et très même valorisé, effectivement, dans l'Église. Parce que c'est pour le royaume, eh bien, il faut en faire beaucoup. Alors, on parle pas que dans l'église, dans cette émission, mais on fait une mini parenthèse là-dessus parce que je pense que c'est important. Et, parfois, justement, on va se mettre cette pression-là de se dire, on va regarder les autres, ils en font tellement, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse plus. Et puis, on va applaudir, oh, mais t'en fais tellement, oh, mais tu payes tellement le prix. Mm-hmm. Et puis, oh, puis on valorise, sans se soucier, mais est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te reposes? Est-ce que tu manges bien? Mm-hmm. Est-ce que tu tiens le coup? C'est quand tes dernières vacances? Est-ce que tu arrives à décrocher des petites choses comme ça qui vont faire qu'on va pouvoir se poser des questions? Dans Genèse 2, au verset 3, qui est notre verset du jour, la Bible dit « Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Et quand je lisais ce verset, on le connaît très très bien, et puis on en parle souvent quand on veut mettre en avant le repos, mais je me disais « Mais qui sommes-nous pour penser qu'on n'a pas besoin de repos, alors que le Créateur de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux, l'Éternel des armées, le commencement et la fin, et je pourrais en citer, a eu besoin de se reposer. Ouais. Et là, je me suis dit, il y a de l'orgueil quand même dans tout ça. Ouais. À penser qu'on est fort, qu'on est capable, et qu'on peut faire, et qu'on peut faire, jusqu'à ce que la chute arrive, malheureusement.
Et je trouve ça tellement intéressant, parce que je m'attendais pas, quand j'ai commencé à écrire ce livre, à une réaction assez commune de « Oh, ben, en ce moment, je suis pas fatiguée, donc j'ai pas besoin de me reposer. » Et en fait, j'ai réalisé, dans ce verset que tu viens de lire, le mot hébreu, Shabbat, c'est là la première fois qu'on voit Shabbat, ça veut dire se reposer, mais ça veut aussi dire cesser. Et je pense qu'on a tellement vu le repos comme quelque chose de palliatif. Je suis épuisée, donc je me repose. Et c'est ça qui amène souvent à ce qu'on se repose quand on est brûlé, c'est trop tard. Mais si on le comprend comme un rythme, cesser, s'arrêter, que tu sois fatigué ou pas, ça permet de voir les choses différemment. Ça permet de se dire, il a donné l'exemple, Dieu n'était pas fatigué. Donc il s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il s'est arrêté, il s'est reposé parce que c'est un exemple positif. Tu vois la différence entre c'est pas quelque chose qu'on fait quand ça va mal, c'est quelque chose qu'on fait quand ça va bien pour que ça n'aille pas
mal. Tout à fait. On n'est pas dans le curatif, on est dans la prévention.
Exactement. Et donc se dire, Shabbat, c'est repos et s'arrêter, cesser de faire. Et là-dedans, il y a un repos aussi très spirituel dans le fait de cesser de faire pour être. Et d'accepter qu'on n'a pas besoin de faire pour être, pour rejoindre ton point aussi.
Absolument. Et ce que j'aime, je pense qu'on en a parlé, on a des conversations hors plateau, les filles. Et dans Exode 16 encore, lorsqu'on parle de ce, c'est là qu'on parle de cette notion de repos avec la manne et tout. Mm-hmm. Ce que j'ai trop aimé, et j'y pensais encore ce matin, c'est que lorsque les gens ramassaient la manne, ceux qui en ramassaient trop, ils en avaient pas plus. Yeah. Et ceux qui en ramassaient pas assez, ils n'en manquaient pas. Il y a un miracle dans le miracle, là. Je te dis, mais c'est incroyable. Comment Dieu nous rassure par là, en fait. Je me dis, le petit papy qui avait pas assez, il avait pas assez de force pour ramasser, mais il en avait quand même. Yeah. Et le jeune qui était vigoureux, qui en avait pris beaucoup, mais il en avait pas de trop. Yeah. Et ça veut dire que lorsqu'on accepte ce rythme de repos, ben Dieu, il pourvoit, en fait. Mmh. Et il y a des personnes qui sont peut-être dans des contextes où ils se disent, je ne peux pas. Je suis mère monoparentale, voilà, je suis un parent solo, je suis un étudiant, peut-être dans un pays étranger, peut-être dans mon pays, la situation économique est compliquée, on doit aller tous les jours chercher quelque chose. Non. Dieu nous dit, il va pourvoir, en fait. Si nous, on commence à faire le premier pas, de lui faire confiance dans ce repos-là. Mm-hmm. C'est pas un repos de paresse, c'est pas un repos de désengagement, mm-hmm. c'est un repos de confiance. Ouais. Et quand on va vivre dans ce repos, et je suis vraiment sûre qu'il y a des personnes qui ont des problèmes même relationnels, parce qu'on parlait de d'irritabilité et tout ça. Des fois, t'es fatigué et t'es pas de bonne compagnie et t'as des soucis relationnels. Ça vient juste à cause de ton manque de repos, en fait. Mm-hmm. Des fois, t'as des problèmes de santé qui viennent juste de ton manque de repos. C'est pas une attaque du diable, ce n'est rien. Mm-hmm. C'est toi-même, en fait, si tu commences à écouter ton corps, les choses vont changer. Vraiment, je veux nous inviter, alors qu'on est encore en début d'année, de prendre la bonne résolution de faire confiance au Seigneur en ralentissant.
Vraiment, je crois que c'est des conseils de grande sagesse qui vont permettre justement d'éviter d'aller trop loin et puis éventuellement de se casser la figure plus tard. J'en ai déjà parlé dans la table avec Annabelle. Mm-hmm. Moi, j'ai dû m'arrêter pendant 3 mois parce que j'étais épuisée, j'étais à bout. Mm-hmm. Et ce que tu disais, Nadine, par rapport au devoir, je dois, je ne peux pas m'arrêter, je dois, est un piège. Mm-hmm. Parce que quand t'es obligée de t'arrêter, mm-hmm. parce que ton corps ne peut plus, mm-hmm. ben là, tu réalises que en fait, tu pouvais t'arrêter. Mmh. T'étais pas tant obligé de faire tout ça. Finalement, le monde a continué de tourner sans toi. Ouais. Finalement, on a réussi à fonctionner sans toi dans des domaines où tu pensais que t'étais indispensable. Ouais. C'est pour ça que je parlais un petit peu d'orgueil dans l'introduction. Mmh. C'est qu'il y a un petit peu de ça, mais on va comprendre qu'en fait, le repos, c'est pour notre bien. Et avec toi, Catherine, sans plus tarder, parce qu'on veut te laisser plus de place, on va voir exactement mais comment s'arrêter quand tout va trop vite. Parce qu'on est bien d'accord qu'il faut s'arrêter, mais comment le faire? Eh bien, on écoute ça dans la rubrique Conseil du coach.
Alors, comment s'arrêter quand tout va trop vite? Ou plutôt, comme Nadine disait, d'abord, comment identifier qu'on va trop vite? Parce que aller trop vite, c'est poser un diagnostic. Mais souvent, on a les symptômes, les points de rupture, avant de réaliser qu'on va trop vite. Alors, on peut en voir quelques-uns. Nadine parlait de l'irritabilité. C'en est un grand. C'est un major red flag, comme on dit en anglais, que quelque chose ne va pas. Quand la vie devient une longue liste de tâches à faire, on prend plus plaisir aux choses qu'on fait, mais c'est des choses à cocher. On a juste ce sentiment qu'on a une liste interminable de choses à faire. Quand ce qui nous interrompt, ce qui est imprévu, devient agaçant, vient nous irriter parce qu'on n'a pas le temps. On est complètement en contrôle de notre agenda parce qu'on va trop vite. L'impression de suffoquer, la tête qui tourne, un brouillard mental, un fond permanent d'angoisse, ce sentiment constant de « mais j'en fais tellement, mais je suis en retard, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur ». Une spiritualité qu'on vit de plus en plus par procuration. Alors on écoute des podcasts, des sermons, mais nous, nos temps avec le Seigneur deviennent de plus en plus secs. Quand l'urgent écrase l'important. Ça, c'est très typique d'une vie qui va trop vite. C'est qu'on est tout le temps en réaction, en réponse à ce qui est urgent, mais on n'a plus le recul, le discernement de discerner et les choses importantes dans ma vie. Mais je n'arrive plus à les adresser parce que je traite l'urgent constamment. Quand on est présent physiquement avec notre famille, à l'église, mais à l'intérieur, on est agité, on est dispersé. Il peut même y avoir le silence autour de nous, mais dedans, c'est complètement agité, complètement sans repos. Et ça, ce sont les symptômes. Mais les symptômes ne sont pas le problème. Et là vient le temps du diagnostic, le temps de se poser, de se demander qu'est-ce qui se passe. Et alors, c'est un moment, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, de demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Et bien souvent, dans notre génération, le diagnostic, c'est tu vas trop vite. Tu mènes une vie qui est désalignée avec le rythme que Dieu veut pour toi. Il y a des experts de la santé dans le monde anglophone qui se sont même prêtés au jeu d'aller définir la précipitation comme une maladie. Je vais vous lire quelques exemples de leur définition. Mm-hmm. Un sentiment de malaise pour la personne qui, de manière chronique, a l'impression de manquer de temps et qui a donc tendance à effectuer chaque tâche plus rapidement et à s'énerver lorsqu'elle fait face au moindre délai. Une autre, une lutte continue et une tentative incessante d'accomplir ou de réaliser de plus en plus de choses ou de participer à de plus en plus d'événements en moins de temps. Alors c'est sûr qu'en plus avec l'ère de l'IA, on a l'impression qu'on peut aller de plus en plus vite, mais il y a tous ces symptômes qui doivent tirer la sonnette d'alarme et dire « il y a un problème, il faut le diagnostiquer ». Avant de passer au traitement, les causes sont très importantes. Parce que quand on va soigner une maladie, oui, on veut soigner les symptômes, mais on veut regarder qu'est-ce qui a causé cette maladie pour aller à la racine et soigner la racine. Alors, quelles sont les causes profondes d'un rythme désaligné, d'une vie qui va trop vite? Le premier, je pense, c'est l'absence de repos spirituel. Le repos qu'on vit dans notre vie, dans notre agenda, est souvent le reflet du repos qu'on vit dans notre esprit et dans notre relation avec Dieu. Et on a compris la grâce pour le salut. On a compris qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. mais on ne le démontre pas dans notre manière de vivre. On œuvre tellement qu'on donne l'impression à ceux qui nous voient autour de nous que nos œuvres nous qualifient. Mmh. On est aimé, valorisé, que notre vie vaut quelque chose par nos œuvres. La deuxième cause, c'est le refus de nos limites. C'est qu'on pousse nos limites de temps, d'énergie, de moyens, avec l'impression que la limite est quelque chose de mauvais. Alors il y a des temps où le Seigneur nous appelle à dépasser nos limites. Mais les limites, c'est lui qui nous a données. Et il y a aussi une vraie dimension de don de Dieu à reconnaître nos limites et à les respecter. Et la troisième cause, je pense bien souvent, c'est comme on le disait tout à l'heure, on est dans une culture de la performance, on est dans une société, mais aussi souvent une église qui valorise ce qu'on fait. Et on a de plus en plus tendance, en particulier pour ceux qui vivent leur foi, à confondre ce qu'on fait pour Dieu à ce qu'on fait avec Dieu. On peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour Dieu et pourtant ne pas les avoir fait avec Dieu. On peut en faire beaucoup moins avec Dieu. Et Dieu reconnaît ce fruit parce que c'est quelque chose qui découle de notre relation avec lui versus quelque chose qu'on fait pour essayer de qualifier notre relation avec lui. Donc, je répète les trois causes que je pense souvent sont à la racine d'aller trop vite. C'est l'absence d'un repos spirituel réel, le refus de nos limites et une culture de la performance. Alors, passons à la prescription. Les conseils concrets. Qu'est-ce
qu'on fait ?
Docteur
Catherine.
Docteur Catherine. Il faut soigner les symptômes, il faut aussi soigner la cause. Mm-hmm. Et on va commencer par regarder à comment soigner la cause, comment traiter ce qui est à la racine. Parce que si on ne le fait pas, la rechute est assurée. Mm-hmm. On part 3 semaines en vacances, on se dit c'est bon, je suis reposée, on revient, on reprend le même rythme. Parce qu'on n'a pas touché à la racine. Et il faut donc comprendre la grâce, comprendre ce que ça veut dire être sauvé par la grâce, mais pas que pour notre salut, pour notre quotidien. Comment ça se reflète dans notre rythme, dans notre manière de vivre? On parle souvent du fait que c'est à l'amour que vous porterez les uns aux autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, mais on peut étirer cette pensée. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est des disciples de Jésus à notre manière de vivre, dans nos rythmes? Est-ce qu'on véhicule un sentiment d'agitation, d'angoisse, de « je ne suis pas assez » dans notre rythme? Ou est-ce que notre rythme de vie évoque la paix? On l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on est paresseux, ça ne veut pas dire qu'on ne s'inquiète pas des choses de Dieu, pas du tout, mais on le fait avec paix. On le fait avec quelque chose qui montre qu'il n'y a pas, en anglais il y a un terme « restlessness », il n'y a pas l'absence de repos, l'agitation, la fébrilité, il y a une paix qui découle. Et ça, ça va permettre de faire quelque chose de très important. Ça va permettre de réévaluer nos engagements en les passant par le crible de « est-ce que je le fais par pression, pour plaire aux autres, pour aider, parce qu'on a besoin de moi ou est-ce que je le fais parce que Dieu m'appelle à le faire ? Est-ce que c'est une vraie conviction ?» Et c'est quand on vit la grâce dans notre quotidien qu'on est libéré de pouvoir faire ce tri, de pouvoir être OK avec le fait de dire « je ne peux pas. Je ne peux pas être là, comme Yveline le disait tout à l'heure. Le monde ne va pas s'écrouler et je sais que je ne suis pas appelée à ça. Dieu ne nous appelle pas à tout. Il faut savoir discerner ce à quoi il nous appelle parce qu'il y a là une grâce, il y a là une vraie abondance de repos dans les choses qu'on fait, même s'il y en a beaucoup. Il faut aussi savoir discerner ce à quoi Dieu ne nous appelle pas. Et c'est quand on sait qui on est, qu'on est aimé, qu'on est justifié, qu'on est valorisé de lui, qu'on peut se permettre de faire ce genre de tri. Donc je pense que c'est une grande clé pour ralentir, pour vivre à un rythme plus aligné avec Dieu, que de comprendre que véritablement on n'est pas sauvé par les œuvres, mais que ça va plus loin que le salut, ça va aussi dans notre manière de vivre, dans notre rythme. Mais on peut aussi adresser les symptômes, on peut aussi aligner notre rythme pour être plus en accord avec un rythme soutenable. Et là j'aurais 3 sous-points à vous proposer. Le premier, c'est de revenir au sabbat, le comprendre et l'observer. Yveline, tout à l'heure, tu lisais ce verset dans la Genèse, alors je ne vais pas le relire parce qu'on l'a déjà entendu, mais je voudrais souligner différentes choses dans ce verset. Le jour du sabbat, donc Dieu s'arrêta, il se reposa, il bénit ce jour et il en fit un jour saint, consacré, mis à part selon les traductions. D'abord, l'aspect de bénédiction. Dans la Genèse, la bénédiction, il la donne aux hommes, il la donne aux animaux et il la donne au jour du sabbat. Et à chaque fois qu'il va bénir donc les hommes et les animaux, c'est une bénédiction qui produit la vie. Multipliez-vous. Donc dans la bénédiction de Dieu, il y a la capacité à produire la vie. Observez le jour du sabbat, on peut se dire « ça va me mettre en retard, je vais moins en faire, je perds un jour ». C'est un jour qui produit la vie. Tu n'as peut-être pas l'impression sur le moment même que ça produit la vie. Tu dis « je m'arrête, je ne produis pas », mais ça produit la vie parce que Dieu l'a béni. Et dans la bénédiction de Dieu, il y a la capacité à transférer la vie. C'est aussi un jour qui est mis à part, consacré. Et c'est tellement important de le voir parce que c'est la, dans les cultures antiques de l'époque, c'est la première fois qu'on voit Dieu bénir. Dans les autres religions, Dieu bénissait des lieux ou des objets. La première chose que Dieu a consacrée, a mise à part, a sanctifiée, rendue saint, c'est le temps, pas un lieu. Donc ça veut dire que Dieu a rendu le temps saint. Dieu a fait du temps un lieu de rencontre, quelque chose qui doit être traité comme saint et mis à part. Et du coup, pour rendre ce jour saint, il faut comprendre ce qu'il n'est pas. Et là, je vais peut-être choquer certains, mais le sabbat n'est pas un jour d'église. Pourquoi je dis ça? Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas à l'église le jour du sabbat. Mais pour certains, les serviteurs, les pasteurs, les bénévoles, on peut être à l'église du matin au soir. Il y a eu une époque de ma vie où je faisais 5 cultes. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne devais pas les faire en tant que bénévole? Non, mais ça veut dire que ce n'est pas mon jour de repos. Je n'étais absolument pas reposée à la fin de ce jour. Donc, il fallait choisir un autre jour de repos pour faire son jour de sabbat. Ce n'est pas non plus un jour de congé. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas le jour où on fait les courses, le ménage. C'est un jour de repos saint. Et ce n'est pas un jour de divertissement où on regarde Netflix, où on scrolle. Alors oui, on s'est peut-être diverti, mais on ne s'est pas ressourcé. Et un auteur que j'aime beaucoup, John Mark Comer, propose un double test pour savoir si on observe vraiment un jour de repos de sabbat. Est-ce que c'est reposant? Et est-ce que ça m'amène à adorer Dieu? Mais alors ça peut être très créatif et très différent, parce que pour certains, adorer Dieu, c'est aller se promener en nature. Pour d'autres, c'est peindre. Pour d'autres, c'est écrire la poésie. Pour d'autres, c'est travailler le jardin. Et donc, ça ouvre tout un champ de possibilités pour rencontrer Dieu dans le repos et dans l'arrêt. Donc ça, c'était mon premier point au niveau des symptômes, comprendre et observer le sabbat. Le deuxième, c'est instaurer de la marge. La marge, c'est quoi? C'est l'espace entre tout ce que tu portes et ce que tu pourrais encore porter. Et bien souvent, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace. On est à 100% de ce qu'on pourrait porter, et bien souvent, on est à 120%. Et c'est là qu'on revient au point de l'irritabilité, parce qu'on ne peut pas se laisser interrompre. On est tellement énervé, agacé, quand quelque chose se met dans le chemin de notre planning parfaitement coordonné.
Oui.
Si on avait de la marge, c'est une respiration, on peut accueillir l'imprévu, on peut accueillir celui qui vient à nous sans s'écrouler parce qu'on a de l'espace prévu. C'est un espace que j'aime appeler un espace d'amour parce que ça nous donne de l'espace pour les autres. Mais là aussi, ça demande, comme tout à l'heure, un inventaire de manière réaliste. Quel est mon temps? Combien il est déjà consacré à des engagements? Bien souvent, le bilan, c'est qu'il y en a trop. Et il faut écumer, il faut enlever avec le Seigneur, prier. Qu'est-ce que j'enlève? Dans la liberté, parce qu'on sait qu'on n'est pas qualifié par ce qu'on fait. Et ça donne beaucoup de liberté à pouvoir enlever certains engagements. Il faut aussi le faire avec sagesse. Quand on s'engage, que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, on ne part pas du jour au lendemain de quelque chose qui mettrait en porte-à-faux les autres. Alors on le fait avec sagesse, avec le Seigneur, on prépare le terrain. Et on dit, ben voilà, il y a certaines choses que je vais devoir arrêter, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois. Et ça m'amène au dernier point, ben c'est discerner et accepter ses limites. Encore une fois, des fois, le Seigneur nous appelle à surpasser les limites. Mais il y a des limites corporelles, d'énergie, de temps, de moyens qu'il nous donne et qui sont un don quand on sait les respecter, quand on sait reconnaître, voilà ma limite. Tout le monde n'a pas non plus le même appel, la même charge. Il faut respecter, connaître sa propre limite. Et je finis du coup avec le dernier verset. Dans Exode 20, verset 10, « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos. » Et là, ce que j'aimerais souligner, c'est « Pendant 6 jours, tu feras tout ce que tu dois faire. » Si en 6 jours, la liste ne rentre pas, la liste est trop longue, il faut enlever. Il ne faut pas massacrer le 7e jour ou il ne faut pas en mettre tant dans les 6 autres jours qu'en fait, ça ne rentre pas parce que tu travailles jusqu'à pas d'heure.
Il faut
simplement revoir la liste et accepter ses limitations. Nadine le disait tout à l'heure, c'est un acte de foi, d'obéissance qui remet Dieu au centre et au contrôle de nos vies.
Merci Catherine. Je ne sais pas toi Nadine, mais moi je
fais envie de faire dodo.
T'as envie de faire dodo. Non, mais j'aurais eu envie de rebondir sur chaque point que tu as partagé. Parce qu'en fait, il y a tellement de vérité dans ce que tu as dit, mais il y a aussi tellement de « oui, mais comment ?»« Oui, mais comment ?»« Oui, mais comment ?» Et j'entendais les « oui, mais comment ?» des téléspectateurs. Et je pense que la lecture de ton livre sera une réponse plus complète, parce que là, tu donnes quelques pépites, en fait. Mais il y a beaucoup plus dans ce livre que tu as écrit. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus dans les minutes qui suivent? Pourquoi déjà ce choix
du titre du livre,
de l'écriture. Pourquoi écrire? Pourquoi sur ce thème, en fait?
Pourquoi sur ce thème? C'est ça résume ma vie. C'est vraiment un parcours de vie où le Seigneur m'a fait ralentir et m'a surtout fait comprendre que c'était osé, c'était un acte de courage, mais c'était aussi voulu de lui. Moi, j'ai beaucoup dû batailler contre le sentiment de culpabilité parce que j'étais, par excellence, celle qui cherche la performance à produire pour le Seigneur, vraiment. Et de comprendre, c'est ce qui m'a le plus aidé. Ça paraît conceptuel, mais c'est aussi très concret. Comprendre que le Seigneur veut mon repos m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que ça agit à la source, en fait, de réaliser c'est moi qui m'impose beaucoup de choses alors que lui veut mon repos. Et l'autre chose intéressante au livre, c'est que ça s'appelle « Oser ralentir », mais en fait, les deux dernières parties du livre, elles ne sont pas tant sur les rythmes, mais elles sont sur ce qui va participer à nos rythmes, à savoir notre amour de la présence de Dieu et notre amour de la paix de Dieu. Puisque des rythmes trop rapides viennent souvent bouleverser la paix, mais c'est aussi parce qu'il y a des éléments qui ne sont peut-être pas en paix qui vont aller se manifester dans un rythme. Et la dernière raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est que j'ai réalisé pendant la pandémie, je l'ai commencé pendant la pandémie, que quand on a été mis à l'arrêt de manière forcée, beaucoup de gens ont été soulagés.
Et, oui,
et je me suis dit, on est victime de nos rythmes. Et du coup, je me suis dit, je veux écrire comme un manifeste pour aider d'autres à se libérer. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que je ne suis pas du tout la seule à vivre en porte-à-faux entre le rythme que je mène et ce à quoi mon cœur aspire vraiment.
J'aime le titre « Oser » parce que c'est vrai que ça demande du courage de ralentir. Et ça paraît complètement paradoxal parce qu'on nous a enseigné que c'est une faiblesse d'être lent, de se reposer, de ne pas produire beaucoup. Et c'est un espèce de paradoxe, en fait, quand tu dis « c'est courageux de ralentir ». Et je sens que ça vient heurter peut-être certaines personnes à l'intérieur d'eux, de tout ce qu'on a bâti pendant des années. Ok, je fais preuve de courage. Si je ralentis, moi, j'ai mis du temps à le comprendre, en tout cas.
Et je pense, pour encourager, vous me connaissez, je fais beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut rien faire. Je pense que c'est une manière de faire qui découle d'un endroit de repos, plus que pour atteindre un endroit de repos. On ne fait pas pour trouver le repos de Dieu. Parce qu'on a trouvé le repos de Dieu, on fait. Et donc, pour aussi rassurer tous ceux qui ont peur, qui se diraient « ça veut dire que je ne vais plus rien faire pour le Seigneur ». Non, ce n'est pas du tout ça. Tu vas faire plus efficacement, plus tranché, plus précis, parce qu'avec beaucoup plus de conviction.
Magnifique. Amen. Moi, je suis en train de lire ce livre depuis quelques mois, en fait, parce que même le livre en lui-même, il est beau. Déjà, Catherine, félicitations. Oui, vraiment, ton livre est beau. Il est beau au toucher. Ouais. Et je crois que ça donne même l'expérience sensorielle. Quand tu lis le livre, contribue à te pousser à te reposer et à réfléchir, en fait, et à t'asseoir en Dieu. Comme tu dis, de passer, de faire les choses après, à partir d'une posture de repos, de confiance, de la présence de Dieu, et non dans une posture de mérite, de je dois, et de toutes sortes de désordres. Et derrière, ici, elle a écrit « Une génération saturée par le bruit, l'urgence et l'agitation. Ce livre offre une invitation. Ralentir, écouter et retrouver la route vers le repos, la présence de Dieu et la plénitude originelle. » Et ce que j'aime dans ton livre, c'est pas juste se reposer pour se reposer, mais tu expliques aussi à travers la Bible, comme tu es une bibliste. Et donc, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Et même la façon dont c'est écrit, il y a des pauses dans le livre. Et donc, tu es poussée à ne pas lire d'un trait. Parce que moi aussi, des fois, je veux dire, je vais lire, je vais le finir. Mais non, c'est vrai, c'est pas le but, c'est pas de terminer en un week-end.
J'ai fait un livre de plus.
Voilà, c'est ça.
Au suivant.
C'est pas ça le but. Et c'est vraiment, en tout cas, je trouve c'est tellement beau. Vraiment, félicitations pour ce livre. J'encourage vraiment à se le procurer sur biblecela.com.
C'est ça. On vous invite vraiment à vous le procurer et à oser. Soyez courageux, courageuses et osez ralentir. Catherine, merci beaucoup. Merci. Venez nous partager ton cœur. Et comme je dis, je ferai une série complète là-dessus si j'en avais l'occasion. Peut-être une fois. Je garde vraiment en tête. Je pense que je vais te réinviter. J'ai envie qu'on creuse ça parce que je crois que c'est le mal de cette société et beaucoup en souffrent. Ouais. Et pour que ça descende, des fois, il faut appuyer un peu plus. En tout cas, merci beaucoup du partage qui nous a fait beaucoup de bien à nous et à vous aussi également. Alors demain, on va se retrouver. On va parler des premiers pas avec Jésus. Eh bien oui, peut-être que vous êtes nouveau converti, peut-être que vous avez amené récemment des personnes au Seigneur. Quels sont ces premiers pas à faire avec Jésus? C'est des fondamentaux dont on va parler, mais extrêmement importants. Ça outille à la fois un nouveau converti, mais à la fois tous ceux qui les accompagnent. Et Frank fera une rubrique réponse d'experts. Quelle est la place de l'obéissance et de la sanctification dans la vie du croyant? Alors, on vous attend demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.
« Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.